7h45, l'heure des enjeux internationaux. Thierry Garcin, rebonjour à vous et nous partons toujours aujourd'hui pour le Moyen-Orient.
Et rebonjour Marc Voinchet. Donc effectivement, quelle recomposition au Moyen-Orient, les tendances lourdes géopolitiques hier. Nous allons parler demain de la coalition anti-État islamique, donc au sens propre du terme. Après-demain, l'Iran. Et puis pour finir, quels différents scénarios privilégiés. Notre invité ce matin, Pierre Azou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous aviez publié chez Perrin la guerre Iran-Irak. Et puis on peut renvoyer également à deux autres publications. D'abord une cartographie sur notre site internet organisée par la rédaction de France Culture et un certain nombre d'éléments sur tout ce conflit, donc franceculture.fr. Et puis qui viennent de sortir, mars 2015, cahier du Rotex par le ministère de la Défense, les évolutions tactiques du conflit en Syrie. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça couvre la période 2011-2014 et on le mettra sur notre site internet dans la matinée, les cahiers du Rotex, retour d'expérience. Alors on le sait, on l'a dit hier, l'État islamique en Irak et au Levant a sa logique, la constitution, l'expansion du califat qui n'est pas celle d'Al-Nusra qui est dérivée d'Al-Qaïda qui privilégie elle l'instauration de la charia. Alors comment est-ce que l'État islamique est parvenu à conquérir, à tenir, à administrer un territoire aussi vaste? Comment se finance-t-il? Enfin, beaucoup de questions. Peut-être une remarque d'ordre un peu géopolitique. Vous vouliez introduire le sujet de cette façon, Pierre Azou?
Oui, ce qui est crucial, je pense, pour comprendre aujourd'hui la logique de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, autour de la lutte contre Daesh et l'État islamique, c'est le fait que fondamentalement l'État islamique pose aux dirigeants de la région une question cruciale et fondamentale, et notamment aux dirigeants saoudiens, aux dirigeants des monarchies du Golfe, turcs, mais également aux occidentaux et aux américains au premier chef. Et cette question, c'est de savoir si ce qui pour eux est plus fondamental, c'est de créer finalement un bouclier face à l'Iran, face à l'influence iranienne en direction du Proche-Orient et de la Méditerranée, et donc de laisser se constituer un État tampon sunnite qui ferait le lien directement entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, et donc qui freinerait littéralement, qui empêcherait l'expansion régionale de l'Iran. Ou bien, si au contraire, ce qui compte, c'est le maintien du statu quo, c'est-à-dire le maintien des frontières nées des accords Sykes-Picot dont on fêtera ou on ne fêtera pas, mais en tout cas, dont on marquera le 100e anniversaire l'année prochaine, et en même temps, le statu quo, j'allais dire, de l'organisation et régionale et des pouvoirs en place.
Et si sûr, d'ailleurs, que cela fonctionnerait comme un bouclier anti-iranien, compte tenu du fait aussi que les Américains, et à juste titre, veulent réintroduire l'Iran dans sa région, puisqu'encore une fois, c'est un système hémiplégique en matière de sécurité du Golfe, sans l'Iran. C'est-à-dire qu'on est depuis quoi, 79, ça fait combien de temps? Depuis des décennies, on est dans une sorte d'hémiplégie volontaire de la région.
Exactement. Et c'est bien pour cela que personne ne veut ou ne peut répondre à cette question. Donc question en fait, qui était posée notamment par les anciens baassistes de Saddam Hussein qui ont rejoint finalement l'État islamique, pas du tout par conviction religieuse, mais par intérêt géopolitique, c'est-à-dire parce qu'ils ont été marginalisés par les pouvoirs irakiens successifs après la chute de Saddam Hussein, et ils veulent en quelque sorte leur revanche, ils veulent réexister. Question également posée par les chefs des tribus sunnites irakiennes qui ont rejoint eux aussi l'État islamique par pur intérêt géopolitique. Et donc ces gens-là qui ont vécu finalement pendant des décennies sous le régime classique, c'est Saddam Hussein, bouclier de l'Occident et bouclier des monarchies du Golfe face à l'Iran, se disent bah, après tout, pourquoi pas rejouer un petit peu le même scénario, mais avec un nouvel étendard, et donc celui de l'État islamique. Et bien sûr, les Américains, eux, sont très gênés parce que les Américains se disent que dans la recomposition géopolitique de la région, il faudra bien évidemment inclure l'Iran, comme vous le disiez très justement.
Et puis un État kurde à la clé.
Et peut-être un État kurde.
Donc, le remède peut être pire que le mal.
Donc exactement. Donc ça ne va pas de leur point de vue. Et du point de vue des monarchies du Golfe, c'est très gênant aussi parce que, évidemment, si l'Arabie Saoudite laisse l'État islamique prospérer et devenir un peu trop puissant, il n'est pas à l'abri, d'un choc en retour et d'une redescente brutale et rapide des djihadistes sur la Mecque et Médine ou sur d'autres régions saoudiennes. Et bien entendu, le gouvernement turc n'a pas forcément envie de se laisser se créer un Kurdistan à ses frontières.
Et cela réveille la question chiite aussi, et notamment en Arabie Saoudite, puisque c'est la région pétrolière du Hassa, etc. Enfin, on est dans d'immenses points d'interrogation.
Voilà, donc je pense que à tort ou à raison, les djihadistes se disent, en fait, la question fondamentale, c'est les frontières ou le statu quo. Et c'est vrai que personne, pour le moment, ne veut véritablement répondre à cette question, ce qui explique aussi en partie le statu quo sur le terrain, c'est-à-dire le fait que l'État islamique, finalement, arrive à perdurer, connaît des revers et connaît quelques succès également. Donc, en fait, s'équilibre. Donc, en fait, on a l'impression que l'État islamique est contenu sur le terrain, avec parfois des gains et parfois des pertes, mais globalement arrive à tenir sa position. Sa position, c'est globalement le contrôle des territoires sunnites entre le Tigre, l'Euphrate et une partie du territoire syrien.
Oui, leur expansion est fluviale, d'ailleurs, c'est très intéressant.
Oui, en fait, le problème notamment de l'État islamique, c'est qu'il a besoin d'axes de communication. Et donc, dans les déserts, dans les endroits désertiques où il est bien installé, il contrôle donc certaines routes clés. Mais également, pour lui, les deux axes majeurs de logistique sont le Tigre et l'Euphrate. Donc, on en revient en fait à de grandes options traditionnelles géopolitiques qui remontent à l'Antiquité et au Moyen Âge. Donc, la géopolitique des territoires, bien entendu.
Les territoires existent encore, contrairement à ce qu'on nous dit sans arrêt. Alors, d'autre part, comment est-ce qu'il est parvenu quand même à gagner autant d'espace, on va dire, l'État islamique?
Parce que finalement, cet espace, il y a beaucoup de vide. Déjà. Et en fait, cet espace, c'est surtout, on est en milieu quand même semi-désertique. Donc en fait, vous avez des grandes villes ou des villes moyennes qui sont reliées les unes entre les autres par des grandes routes, par des zones, j'allais dire, des passages obligés. Et tout se joue finalement sur le contrôle de ces carrefours, de ces passages obligés et de certaines villes clés.
Comment administre-t-il aussi et comment se finance-t-il?
Mais ils ont bien entendu les revenus. Enfin, il y a une source de revenus assez variée, puisque il y a bien entendu les revenus pétroliers. Donc, tout le pétrole syrien, enfin une grande partie du pétrole syrien et une petite partie du pétrole irakien est tombée sous la coupe de Daesh et d'État islamique. Il y a aussi bien entendu tout ce qui est raquettes sur place.
Il part vers la Turquie, ce pétrole.
Il part en partie vers la Turquie. Il part aussi en consommation intérieure. C'est-à-dire que auparavant, l'Irak et la Syrie, enfin les gouvernements centraux, devaient quand même alimenter en essence les populations locales. Donc là, en fait, ça se fait de manière un petit peu autonome comme ça. Je dirais qu'il y a l'impôt révolutionnaire qui est payé par un petit peu tout le monde. Il y a le pillage, donc
les
pillage et les rançons. Alors aussi bien au niveau donc de gens qui peuvent être kidnappés, y compris de gens locaux, enfin de notables locaux qui sont classiquement mis en prison ou kidnappés quelques semaines et ensuite relâchés moyennant rançon.
Il y a eu le pillage des banques aussi de Mossoul, je
crois. Alors il y a eu le pillage de la banque centrale, enfin de l'annexe de la banque centrale de Mossoul, mais ça c'était il y a déjà donc une grosse année. Et tous les experts ne sont pas d'accord pour savoir si oui ou non le pactole a été dépensé. Je crois que en fait l'idée principale qu'il faut retenir, c'est que l'État islamique a des revenus importants, mais en même temps a des dépenses très importantes. Et donc, il faut raisonner non pas en termes de valeur absolue, mais en termes de bilan presque comptable, je dirais. C'est-à-dire que toute la stratégie de l'État islamique consiste finalement, pour être légitime aux yeux des populations qu'elle contrôle, c'est de se fonctionner comme un État, j'allais dire,
providence.
Un État, pas providence, mais un État qui paye les salaires, qui paye, qui fait fonctionner les services publics, qui ramasse les ordures, qui fournit de l'eau, de l'électricité, et tout ça, ça coûte évidemment très cher. Donc la logique de la lutte, notamment contre l'État islamique, devrait être une logique d'étouffement, d'asphyxie, pour finalement réduire la manne financière. On ne pourra pas réduire complètement la manne financière, mais en tout cas de la réduire suffisamment pour faire en sorte que l'État islamique ne puisse plus fonctionner, n'ait plus les moyens suffisants
de son administration.
Voilà, de fonctionner comme une, j'allais dire, comme un État normal et de son administration, pour finalement le forcer à faire un choix drastique qui est de savoir soit on continue, mais sur des territoires de plus en plus restreints, et donc en fait, telle une peau de chagrin, les territoires contrôlés diminuent, ou alors de changer de logique et de revenir à la logique d'Al-Qaïda ou d'Al-Nusra, et donc de rebasculer dans la clandestinité, mais ça veut dire dans ce cas-là d'abandonner le terrain, si on peut dire, ou en tout cas d'abandonner l'État.
La métaphore du califat.
Oui, d'abandonner la métaphore du califat et d'abandonner l'État en fait aux gouvernements centraux des pays sur lesquels il est installé. Mais je pense que si on arrivait à ça, ce serait déjà quelque part une victoire contre l'État islamique, puisque ce qui fait sa force aujourd'hui, ce qui lui permet de recruter et de continuer à recruter donc des combattants, c'est justement ça, c'est cette fiction du califat et de l'État islamique, y compris solidement enraciné sur le territoire lui-même.
Est-ce qu'on sait comment il est organisé de l'intérieur? Alors c'est peut-être difficile à dire, mais enfin quelle est un peu la structure de l'organisation? La structure décisionnelle et l'organisation.
Alors de ce qu'on sait, la structure est pyramidale. Donc au sommet, on avait Abou Bakr al-Baghdadi. Personne ne sait quel est son sort aujourd'hui. Il a été manifestement, enfin tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il a été blessé, voire sérieusement blessé, lors de frappes américaines au printemps dernier. Et depuis, personne ne sait s'il est mort, s'il est gravement blessé et incapable de commander réellement son système, ou bien s'il est blessé mais qu'il arrive à récupérer et à faire ça. Récemment, des cassettes, des messages audio donc signés et authentifiés d'Al-Baghdadi ont été diffusés. Mais comme toujours, il est très difficile de savoir si c'est réel ou pas, c'est-à-dire si ces messages n'ont pas été enregistrés auparavant. Mais à la limite, en dessous, ce qu'il faut voir, c'est que le système fonctionne de manière un peu sous le système des Shura, c'est-à-dire d'un conseil, en fait, une sorte de conseil de gouvernance avec quelques dirigeants importants, chacun étant en charge d'un domaine particulier, les opérations, le financement, la planification, la gestion, etc. Et là, bien entendu, on tombe dans le très opaque et il est très difficile de savoir exactement qui fait quoi.
Alors juste une dernière question peut-être, Pierre Azou, et je rappelle que vous étiez directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Question sur la longévité finalement possible ou probable de l'État islamique, c'est au fond, quelle durée vous lui accordez compte tenu du fait qu'il gère quand même aussi beaucoup, sur le plan technique, beaucoup d'inconvénients?
Oui, alors là, c'est, j'allais dire...
Oui, je sais bien que vous n'avez pas la date précise.
J'aurais pas de réponse, mais la seule chose que je peux vous dire, et j'en suis convaincu, c'est que la durée peut être relativement... Enfin, la fin de Daesh est possible, encore une fois, à condition d'avoir une véritable stratégie cohérente et concertée, c'est-à-dire de s'assurer que les voisins et les États voisins de l'Irak et de la Syrie s'entendent pour une stratégie d'asphyxie de Daesh. Mais ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Voilà, merci beaucoup Pierre Azou. Je rappelle donc franceculture.fr pour vous réécouter durant 3 ans, pour vous télécharger durant 1 an. Marc, nous poursuivrons cette semaine spéciale demain, bien entendu, avec Mustapha Benchenane à propos alors de l'autre versant, c'est la coalition anti-islamique et son efficacité. Quelle efficacité? Point d'interrogation. Mustapha Benchenane, universitaire Paris 5, Paris Descartes.
Merci à vous Thierry Garcin.